Dans la parole de Dieu, le Seigneur, en parlant à ses disciples, utilise un jour cette image en leur disant « Le fou bâtit sa maison sur le sable, tandis que le sage bâtit sa maison sur le roc. » Et tout ça pour dire, et le Seigneur cherchait à dire, que les fondements sur lesquels nous bâtissons notre vie sont très importants. Et il faut par moments se poser des questions à savoir qu'est-ce qui est l'essentiel dans notre vie, quelles sont les choses sur lesquelles nous prenons appui, parce qu'il y a tellement de choses dans le monde autour de nous qui peuvent nous déstabiliser, nous pousser dans un sens ou dans un autre. Et ça me rappelle, il y a au moment de Noël, j'étais à Marseille et j'étais parti faire une balade dans les Calanques avec ma famille. Mais c'était la première fois où on se trouvait là dans les Calanques avec le mistral qui soufflait. Il était impossible de rester sur place. Et on était complètement déstabilisés constamment. Et c'était bien de savoir qu'en dessous de nous, on avait quand même des choses extrêmement solides sur lesquelles tenir. Et ce que nous aimerions aussi dans le cadre de notre Église, c'est que nous ne soyons pas simplement une Église où nous sommes bien ensemble, où nous partageons des choses que nous avons en commun, mais aussi où chacun peut affermir sa foi, où chacun peut savoir que son espérance a des fondements sur lesquels il peut compter. Que ces fondements ne sont pas simplement des choses qu'il pense ou qu'elle pense tout seul, ou des émotions, mais que ce sont des choses qui sont posées et qui sont posées par Dieu lui-même. Alors, le conseil a décidé qu'on referait peut-être une série de prédications avec simplement des rappels sur ce sur quoi nous bâtissons en fait notre foi. Qu'est-ce qui nous permet objectivement de croire aujourd'hui ce que nous croyons, et qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui objectivement d'avancer et d'espérer, même si les événements changent, même si nos émotions changent. Alors nous allons entamer une première série, et ce que nous aimerions aujourd'hui, c'est commencer en fait de faire une sorte de rappel sur Dieu lui-même. Évidemment, nous nous rassemblons parce que Dieu existe et nous croyons que Dieu existe. Nous nous rassemblons parce que nous croyons que Dieu est présent parmi nous et que c'est pour lui que nous sommes là. Et nous tournons nos regards vers lui. Alors il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez apprises, que vous vous souvenez, mais quelquefois il est important de se les rappeler pour être sûr que la façon dont on conduit sa vie est réellement fondée sur ce que le Seigneur lui-même a posé. Alors aujourd'hui, nous ferons une première intervention sur Dieu. En fait, nous nous sommes rendus compte, lorsque nous l'avons préparé à quatre, qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire que ce qu'il pouvait tenir en une seule séance. Donc en fait, nous allons la couper en deux. Et aujourd'hui, c'est moi-même et Pierre qui interviendront. Et en fait, sur Dieu, on aimerait parler de quatre chapitres différents. La première, c'est simplement nous rappeler encore une fois des attributs de Dieu, ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de Dieu? Qu'est-ce que Dieu donne à connaître de lui-même? Et comment est-ce que nous pourrions éventuellement le décrire, bien que Dieu ait beaucoup plus que ce que nous pourrions jamais en dire? La deuxième chose dont parlera Pierre aujourd'hui aussi, c'est que même si Dieu est grand et infini, indicible, on dirait, il n'empêche que Dieu s'est donné à connaître et que nous pouvons le connaître. Donc on n'est pas dans un état où on se dit Dieu est tellement grand, tellement infini que personne ne peut vraiment le connaître. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une chose importante. La troisième chose qu'on discutera une prochaine fois, c'est évidemment tout autour de cette vraiment spécificité du Dieu chrétien qui est il est trois en un. La Trinité. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? On en parlera plus tard. Et la quatrième chose dont nous parlerons aussi, qui nous paraît important pour nous en tant que chrétiens, c'est que Dieu est un Dieu qui intervient dans l'histoire et qui intervient dans notre histoire. C'est un Dieu qui est acteur de notre histoire. Et qui est acteur pas simplement en Jésus-Christ, mais qui est acteur dans la vie de tous les jours de chacun d'entre nous. Et là, ce sont quatre choses qu'on aimerait en fait discuter et représenter pour que nous puissions à nouveau avancer avec confiance dans notre marche avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, moi, ce que je voudrais faire, c'est parler un petit peu des attributs de Dieu. Ensuite, je passerai la parole à Pierre. Et ici, je regroupe. Alors, les théologiens et les chrétiens ont fait tout ce qu'ils peuvent pour essayer de dire comment est-ce que, en écoutant et en lisant la parole de Dieu et tout ce que nous apprenons à propos de Dieu, comment est-ce que nous pouvons essayer de le structurer, l'organiser pour en parler de Dieu? Alors, il y a beaucoup de choses différentes, des catalogues différents, mais généralement, on essaye de parler de ce qui est de la personne de Dieu, dans son être, et puis des choses morales, de ce que Dieu y communique et de la façon dont il est en relation avec le monde et avec les hommes. Et ici, ce qu'on pourrait appeler, dans un sens, les attributs essentiels de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fondamentalement dans l'être même de Dieu. Alors évidemment, lorsque vous lisez les Écritures, on apprend plein de choses sur Dieu. Il y a énormément de mots qui sont utilisés pour décrire Dieu et ce qu'il fait. Mais généralement, lorsqu'on essaye de revenir à essayer de décrire ce que Dieu est, on tombe à peu près dans quatre catégories. Et ici, comme vous voyez, toutes les catégories, sauf la dernière, commencent avec ce petit mot qu'on dit « omni », qui vient du latin, qui veut dire « tout », tout englobant, absolument tout. Alors on n'arrive pas à fixer la limite, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas de limite à la deuxième partie de l'expression, il n'y a pas de limite à sa présence, il n'y a pas de limite à sa science, il n'y a pas de limite à sa puissance, potence, et puis l'immuabilité, là aussi, bon, il n'y a pas de limite. Donc en fait, le Dieu dans lequel nous croyons est un Dieu qui est infini. C'est un Dieu qui remplit toutes choses. Il est dit dans les psaumes qu'il remplit l'univers, mais il ne faut pas le comprendre comme si Dieu était limité à l'univers. Dieu est infini dans ce que nous pouvons en appréhender. La deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que Dieu est un être. Dieu est une personne. Dieu n'est pas un fluide ou simplement une présence. Dieu n'est pas simplement cette espèce de présence qu'il pourrait y avoir dans toute la nature et cette petite étincelle que nous aurions tous au fond de notre cœur. Et là, je ne fais que citer des expressions qui sont parfois utilisées pour parler de Dieu. Mais Dieu est un être. Et Dieu se caractérise comme ceci. Alors, en disant que Dieu est omniprésent, on dit que c'est par sa volonté qu'il est partout et en même temps. On n'est pas en train d'essayer de décrire le fait qu'il est grand, qu'il est petit, qu'il peut être partout en même temps ou quoi que ce soit, mais c'est par sa volonté, et il en a la capacité, et il en use, d'être partout en même temps, comme il le souhaite. Et nous avons des expressions dans l'Écriture où on sait que Dieu, il est partout, il est là quand on se lève, il est là quand on se couche, il était avec ses trois disciples ou les trois amis de Daniel lorsqu'ils étaient dans la fournaise. Dieu est partout, Dieu est avec nous dans l'épreuve, Dieu est au ciel, tu y es, sur la terre, tu y es. Il y a beaucoup de textes qui nous rappellent que Dieu est tout simplement présent. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une présence qui se confond avec la nature ou avec les hommes. Dieu n'est pas dans un arbre. Dieu n'est pas dans un rocher. Dieu n'est pas cette petite étincelle parmi nous tous. Il a la capacité de transcender et d'être présent parmi nous tous, d'être tout proche de nous, mais il ne se confond pas avec sa création. Et là, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement rassurant et consolant pour le chrétien, mais en même temps une sorte de mise en garde, c'est que quelque part on ne peut pas fuir Dieu, mais en même temps il n'y a pas d'endroit où nous nous trouverions aujourd'hui dans l'épreuve où Dieu ne serait pas avec nous. Et ça, c'était une des premières choses qui était importante lorsque il est dit que Dieu appela Abraham et il dit « Lève-toi, quitte ton pays et je te montrerai où aller ». C'était le début de quelque chose de nouveau, c'est que Dieu n'était plus simplement un Dieu qui était un Dieu local, qui était limité à une géographie ou à un peuple, mais c'était un Dieu qui pouvait se promener, qui pouvait se déplacer, qui pouvait conquérir du territoire, qui pouvait être partout. Et pour nous, il est bon de nous rappeler que de par sa volonté, Dieu peut être partout et en tout temps. La deuxième chose, c'est que Dieu est omniscient, c'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses de façon complète, simultanée et vraie. Et là aussi, je vous renvoie simplement à tous ces textes, des textes dans les psaumes qu'on connaît, par exemple, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée ». C'était une façon pour le psalmiste, avec des mots tout simples de tous les jours, même si je ne vois pas Dieu dans la pièce, il sait que je m'assois, il sait que je me lève, il sait que je pars et tout ça. Jésus nous rappelle que le moindre cheveu sur notre tête est connu du Seigneur. Il a cette capacité de connaître jusqu'aux petits détails de notre vie, même les choses qui nous paraissent les plus insignifiantes. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens pour vous, savoir si vous avez beaucoup ou pas beaucoup de cheveux sur la tête. Quoi, je veux dire, c'est relatif entre beaucoup et pas beaucoup, mais le nombre exact, je ne pense pas que ça vous empêche de dormir. Mais là, il nous a dit que le Seigneur connaît jusque le petit détail. Et devant l'infinité de l'univers, il nous a dit aussi qu'il connaît et il compte toutes les étoiles. Là encore une fois, pas simplement se limiter à dire « bon, très bien, Dieu connaît simplement les étoiles », mais pour montrer qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut connaître. Et puis par-dessus tout, il est dit, et c'est là où j'en viens à peut-être la partie rassurante pour nous aussi, mais quelque part qui peut nous effrayer, c'est que Dieu en fait regarde du haut du ciel et il voit tous les humains. Nous ne pouvons pas nous perdre dans la masse des 7 milliards humains. Parce que Dieu nous voit. Parce que Dieu veut nous voir. Et lorsqu'il est dit que Dieu connaît toutes choses de façon complète, simultanée et vraie, c'est-à-dire que Dieu, lui, comprend exactement ce que les choses sont, il n'y a pas d'erreur dans son esprit. Et là aussi, c'est quelque chose de rassurant pour nous lorsque nous avons de la difficulté à comprendre en fait ce qui se passe autour de nous, à comprendre les événements que nous vivons. Il est bon de savoir que nous avons un Dieu qui, lui, sait dans toute la complexité de la situation, ou toute la complexité du monde dans lequel nous vivons, il sait et il comprend. Et dès lors qu'il nous guidera, dès lors qu'il se révélera à nous pour nous conduire dans une voie ou une autre, nous savons qu'il ne se trompera pas. Parce qu'il sait toutes ces choses-là. Et peut-être dans un monde comme le nôtre, où nous accumulons plus d'informations tous les jours que nous pouvons vraiment traiter et comprendre, où des choses comme l'Internet et d'autres choses commencent quelquefois à nous dépasser en disant « mais qu'est-ce qui nous attend dans 10 ans, dans 15 ans ?» Nous avons un Dieu non pas simplement qui peut changer et s'adapter, mais qui connaît déjà ces choses-là et qui pourra toujours conduire son peuple dans un monde qui change et où il y a des choses qui les dépassent complètement. C'est extrêmement rassurant de savoir que Dieu est un Dieu qui connaît toutes choses. Mais est-ce que ce n'est pas rassurant de savoir aussi lorsque nous savons en nous-mêmes qu'il y a des choses qui ne vont pas? De savoir que déjà Dieu le sait. Bien sûr, Dieu attend qu'on vienne à lui et qu'on se repente et qu'on le confesse, qu'on le reconnaisse. Mais de savoir que Dieu sait déjà. Et que dans son amour, il tend sa main et il attend simplement qu'il y ait ce moment de réconciliation. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant de savoir que Dieu me connaît mieux que moi-même. Que dans un sens, il ne peut pas être déçu au-delà de ce que je suis parce qu'il connaît déjà ces choses-là. Et lorsque je m'approche de lui, je n'ai rien vraiment à lui apprendre, si ce n'est qu'à lui dire « tu vois comme je suis ». La troisième chose, Dieu est omnipotent. Dieu peut faire tout ce qu'il veut en accord avec ses perfections. La toute-puissance de Dieu dans les Écritures ne fait aucun doute et c'est repris non seulement dans les psaumes, mais c'est repris aussi dans l'Apocalypse. Et l'Alléluia d'Handel, en fait, est un grand hymne à la toute-puissance de Dieu. Mais dans un sens, ce qui est écrit ici aussi, c'est que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, en accord avec ses perfections. C'est-à-dire que s'il y a une limite à ce que Dieu peut faire, c'est tout simplement ce qui est dans son être et ce qui est dans ses attributs. Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu ne peut pas mentir. Mais Dieu peut tout faire. Tout faire au point où il contrôle toute chose. Il contrôle tous les événements. et sa volonté s'exerce, et sa volonté aboutira comme il le souhaite. Et là aussi, quelle extraordinaire consolation c'est de savoir que Dieu peut faire toutes choses selon ses perfections. Et que même si nous vivons dans un monde qui est tordu, qui est pourri, qui est motivé par toutes sortes d'autres principes et de valeurs, dans sa toute-puissance, Dieu peut faire quelque chose là-dedans. Nous, quelquefois, nous devons nous retirer de certaines situations parce que nous serions submergés par elles ou nous ne pourrions pas les contrôler. Mais Dieu, jusque dans les situations les plus inextricables, les plus difficiles de notre monde, sa toute-puissance peut se manifester et elle se manifeste. Et vous savez comme moi que vous avez vu des circonstances qui vous paraissaient complètement impossibles. Et pourtant, le Seigneur a trouvé son chemin et a transformé ces situations-là pour accomplir sa volonté. Et puis la dernière caractéristique de son être, son immuabilité, c'est-à-dire que tout changement de Dieu est impossible. En lui-même, Dieu ne peut pas changer. Et là, nous avons des textes très clairs là-dessus, dans le Nouveau Testament aussi, chez Jacques, dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit que chez lui, il n'y a pas l'ombre d'un changement. C'est-à-dire que Dieu reste cohérent avec lui-même. Ce qu'il a donné à connaître dans les Écritures de lui-même, ce que nous avons pu connaître de lui-même, ce sont des choses qui demeurent et sur lesquelles nous pouvons toujours compter. Dieu ne changera pas en raison d'un monde qui change et il ne changera pas comme un Dieu capricieux qui tout d'un coup changera son avis et agira totalement différemment. Ce qu'il a donné à connaître de lui-même, ça reste cohérent. Mais ça ne veut pas dire que Dieu reste parfaitement immobile, que Dieu est statique. Dans cette immuabilité, dans cette cohérence de Dieu, il peut continuer à interagir avec les hommes, à répondre à des situations, à les prendre en compte et à continuer à être impliqué dans l'histoire et dans notre histoire. Et Dieu ne peut pas être plus sage que ce qu'il est. Il ne peut pas être plus saint que ce qu'il est déjà. Il ne peut pas changer. Ou plutôt, il ne veut pas changer non plus. Donc ici, dans un sens, et puis si vous voulez, on pourra toujours vous donner beaucoup plus de textes bibliques qui font les références, mais dans un sens, et ici, il me semblait que c'était important de nous les rappeler pour nous, en tout cas aujourd'hui, de se rappeler de cette toute présence de Dieu, où il nous paraît que peut-être il y a des poches dans notre monde où Dieu est complètement exclu, que ce soit dans les bas-fonds de certaines de notre ville, que ce soit certaines contrées de notre monde où, qui semblent être aux mains d'autres puissances, qu'elles soient religieuses ou politiques, que ce soit des contrées où les hommes ne connaissent pas Dieu du tout et où l'évangile n'est jamais arrivé. Oui, Dieu y est. Dieu y est. La deuxième série serait les attributs plutôt moraux de Dieu. Et de parler un petit peu de qu'est-ce qui est dans son caractère et qui sont vraiment, vraiment importants pour nous. En fait, il y en a beaucoup qu'on aurait pu retenir, mais je l'ai retenu plutôt ces cinq-là, en rapport tout simplement avec la relation dans laquelle nous sommes avec lui. La première étant sa sainteté. Je ne voudrais pas mettre une sorte de hiérarchie ici, je crois qu'elles se valent toutes, mais peut-être plutôt une logique. La sainteté de Dieu. Là encore, les Écritures sont nombreuses à nous rappeler que Dieu est saint. Mais ce qui est formidable dans l'Écriture aussi, c'est qu'il nous est rappelé que, en fait, nous sommes appelés à être saints comme Dieu est saint. Et c'est pour ça que je voulais le rappeler ici. C'est que Dieu est parfait dans tout ce qu'il est. Il n'y a pas quelque chose de bien ou de saint au-delà de Dieu. Dieu lui-même est ce qu'il y a de plus parfait, de plus pur. Et en lui, nous avons la pureté de l'être. Et lorsque nous sommes appelés à être saints comme il est saint, c'est de toujours avoir devant nous un Dieu qui est pur à ce point-là, que nous pouvons écouter sa parole, le suivre, l'imiter, nous inspirer de son caractère, parce que c'est comme ça aussi que nous nous rapprochons de lui. Il peut nous servir de modèle. Et c'est bien son intention, sous l'action du Saint-Esprit, de transformer notre être intérieur pour que nous devenions de plus en plus proches de l'image de son Fils et que nous ayons des caractéristiques morales qui soient comparables aux siennes. Et donc de nous rappeler que Dieu est saint, non pas comme étant une barrière entre lui et nous, entre le pur et l'impur. Souvenez-vous de ce qui nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, c'est que cet accès à Dieu dans le lieu trois fois saint où on ne rentrait qu'une fois par an, le rideau a été complètement déchiré et nous avons ce libre accès pour aller auprès de Dieu et dans sa sainteté. La deuxième chose, la vérité, là aussi les textes sont très clairs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ici, la vérité, c'est aussi quelque chose qui fait référence à cette sincérité, cette fidélité de la part du Seigneur. Que dans le Seigneur, il n'y a ni tromperie, ni mensonge. Et que quelque part, c'est fiable et c'est sûr. En nous approchant du Seigneur, on s'approche de quelque chose d'extrêmement solide sur lequel on peut compter. Et dès lors que nous-mêmes nous trouvons dans l'incertitude de ne pas savoir, dès lors qu'on s'approche du Seigneur, on s'approche de quelque chose, oui, où Dieu ne nous fera aucune entourloupe, mais où ce qu'il nous dira sera vrai, sera fiable et sûr, sur lequel on peut compter. Et la vérité, ce n'est pas simplement « Dieu a raison, nous avons tort ». C'est pas simplement « Dieu a raison, nous avons tort ». C'est tout simplement « Vous pouvez vous approcher de lui et compter sur lui ». Troisième caractéristique, l'amour de Dieu. Alors certains d'entre vous l'auraient peut-être mis en premier, etc. Bon, on peut. Mais là, bon, vous connaissez tout ce texte de l'Épître de Jean où il est dit que Dieu est amour. C'est dans la nature même de Dieu d'aimer. Et lorsqu'on arrivera à la Trinité, on discutera de ça aussi, c'est que la relation qui entretient les trois parties ou les trois êtres, les trois personnes de la Trinité, c'est aussi des relations d'amour entre eux. Et c'est dans la nature même de Dieu d'aimer. Et là aussi, à quel point c'est rassurant, c'est-à-dire que Dieu veut aimer même lorsqu'il voit le pécheur. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par le pécheur ou pas le pécheur. C'est dans la nature même d'aimer. Et ici, il y a deux mots supplémentaires qui sont utilisés dans la Bible que je placerai sous l'amour. C'est d'un côté la bienveillance du Seigneur et de l'autre côté sa bonté. Et la bienveillance du Seigneur, c'est cette disposition qu'il a, en fait, à s'approcher vers celui qui est malheureux, celui qui est indulgent, l'indigent, pardon. Dieu a une volonté de se rapprocher dans sa bienveillance de celui qui se sent mal, de celui qui est le dernier. C'est cet élan du Seigneur à aller vers lui. Et sa bonté, qui est aussi un terme qui est extrêmement utilisé, surtout dans l'Ancien Testament, c'est cette volonté de la part du Seigneur de donner ses bénédictions. Et souvent l'image qui est utilisée, c'est cette générosité de la part du Seigneur à faire lever son soleil tous les jours sur tous les hommes, à envoyer la pluie, à bénir les hommes, à leur envoyer des bénédictions jour après jour. Et vous savez comme moi le nombre de choses que nous recevons de la part du Seigneur qui ne sont ni provoquées ni méritées, mais qui sont tout simplement ces écluses que le Seigneur ouvre tous les jours et où il manifeste sa bonté envers les hommes et sa création. C'est dans la nature même de Dieu d'ouvrir ces écluses du ciel et de laisser couler ce qui nous fait du bien, mais ce qui n'est pas nécessairement mérité ou recherché de notre part. La quatrième caractéristique que je mettrai sous le mot « justice », c'est que Dieu se comporte là aussi de façon juste. Et ça revient peut-être à cette notion de fiabilité aussi de Dieu. Mais là aussi, les choses sont claires et Dieu est juste. Il n'y a pas d'impartialité, il n'y a pas de partialité dans l'Esprit du Seigneur. Il traite tous les hommes avec justice. Même sa grâce, dès lors que c'est son Fils qui prend notre péché, c'est une forme de justice. Et donc, à aucun moment est-ce qu'on ne pourrait se retrouver dans une situation où on se dit le Seigneur est injuste envers nous ou injuste envers certaines personnes. Même les questions les plus profondes que nous pourrions avoir sur les personnes qui n'auraient pas entendu parler du Seigneur. Comment est-ce que nous répondons à cette question-là? Certains textes nous aident, mais ce qui nous permet d'avoir confiance, c'est que le Seigneur est juste et qu'il a toujours agi avec justice. Enfin, la grâce. Ce à quoi nous tenons peut-être plus, nous, les protestants, les évangéliques, ce que nous pensons être au cœur de l'Évangile, c'est comment Dieu a réussi à dépasser dans un sens le péché, et par amour à trouver cette solution pour être en relation avec ses créatures, pour continuer à leur manifester son amour et pour les racheter. Dieu est un Dieu qui veut dépasser les situations simplement où tu as péché, tu me dois ceci, ou etc. Mais il a trouvé une autre solution pour surmonter ça. C'est de sa bonté que tout ça s'est manifesté. C'est la bonté de Dieu qui se manifeste envers nous tous qui ne le méritons pas. Et la grâce n'a de raison d'être qu'à partir du moment où il y a des coupables et des pécheurs. Et là aussi, c'est rassurant qu'il y ait tellement dans l'Écriture qui parle de la grâce quand nous savons que la grâce n'existe que parce qu'il y a des coupables et des pécheurs. Alors bien sûr, comme dit l'apôtre Paul, est-ce que nous continuerions à pécher pour que la grâce surabonde? Bien sûr que non. Mais il n'est pas anormal de nous approcher en tant que pécheurs et coupables de Dieu pour être au bénéfice de sa grâce. Donc voilà à peu près 5 caractéristiques que je voulais mettre en avant ce matin pour nous rappeler un petit peu les relations dans lesquelles nous vivons avec notre Seigneur au jour le jour. Et que tout ceci se trouve en fait dans l'être même de Dieu et ne dépend pas de notre façon d'interagir avec lui. Mais c'est en Dieu lui-même qu'il est saint. C'est lui-même qui est vrai. C'est dans sa nature même d'aimer. Il le fera toujours avec justice. Mais il dépassera sa justice pour inclure la grâce, parce que nous ne pouvons pas être justes à ses yeux. Pierre ?
Merci John pour ce rapide, je dirais, aperçu de ce que finalement nous connaissons de Dieu, avec tous ces caractères, tous ces attributs que les hommes finalement ont discernés en Dieu. Et quand nous réfléchissons justement à ce que nous pouvons connaître de Dieu à nous en tant qu'humains, cela semble inouï. Et alors que nous ne pouvons pas voir Dieu, comment est-ce que nous pouvons le connaître? Comment, à partir de notre simple vision terrestre, à notre petite échelle, nous pouvons malgré tout avoir une perception de ce Dieu Tout-Puissant? Et justement, il est intéressant de voir quel soin notre Dieu a pris pour se révéler aux hommes. De voir pourquoi le Tout-Puissant a eu cette nécessité de se révéler aux hommes, et aussi comment ce Dieu que nul homme ne peut voir et vivre désire nous rencontrer individuellement. Alors, nous savons tout ça grâce à la Bible, bien sûr, mais pas seulement. Parce qu'au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la parole qu'il nous dit, qui se mouvait au-dessus des eaux. Et nous savons que la parole était Dieu. Tiens. Première révélation. Et la parole fait partie intégrante de Dieu. Et c'est justement par la parole que toutes choses ont été créées. Comme si la création était le testament écrit, validant la parole de Dieu. Et évidemment, c'est aussi par elle, création et parole, que notre Dieu s'est révélé et se révèle. Et il est juste de se rappeler que pour l'homme, la révélation du divin est une nécessité. Nous ne pouvons pas occulter le désir que tout homme a de rencontrer le divin. Le simple fait de voir ce besoin de spiritualité des hommes, ce besoin qui a traversé les siècles, qui a traversé les continents, est la preuve que nous sommes créés à l'image de Dieu. Avec dans notre cœur la pensée de l'éternité, nous, on reparlera de ça peut-être quand nous aborderons le sujet des hommes, mais néanmoins, compte tenu que nous, créatures de Dieu, ressentons cette nécessité de la révélation de Dieu, il est logique que Dieu se soit révélé. Et il est cohérent aussi que ce soit lui, le Créateur, qui comble ce vide en forme de Dieu, je crois que c'est Saint Augustin qui disait ça, qui est en tout homme et qui se fasse connaître aux hommes. Juste un verset que je rappellerai, Ecclésiaste 3, verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Alors, dans un premier temps, Dieu s'est révélé par la création. Il a parlé et la chose fut. La création, conséquence de sa parole, témoigne tellement de sa toute-puissance qu'il est impossible de ne pas croire en Dieu. Impossible à moins qu'on fasse ce choix délibérément. Et cette création suffit à elle toute seule à révéler à toutes les créatures qui est Dieu. Encore un passage, Romains 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils n'y ont point rendu de grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Personne ne peut prouver que Dieu n'existe pas. Ou alors, il est fou. Cette personne est insensée. C'est Psaume 14 qui dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Et il est intéressant aussi de voir par ces versets que le but de la révélation de Dieu est donc de le connaître, de le glorifier comme Dieu, le verset 21 particulièrement. Et on retrouve d'ailleurs cette idée aussi en Ésaïe 43, verset 7. « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, créé pour glorifier Dieu. » Il s'est révélé pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions le glorifier. Alors ensuite, après s'être révélé par la création, Dieu s'est révélé par les textes. La loi et les prophètes, nous dit la parole. Et cette parole écrite dans la Bible nous présente un peu plus précisément son caractère et quel est son plan. C'est par cette parole qu'on a pu justement discerner tous ces attributs que l'on a vus. Et cette parole témoigne fortement du désir de Dieu d'avoir une relation libre avec ses créatures. Alors que la perception des hommes est que Dieu se cache, ou même qu'il est mort, disent certains, eh bien Dieu justement s'en défend. Dieu ne se cache pas, il est un Dieu de relation. C'est pourquoi il nous a créés pour que nous soyons déjà sur cette terre, dans une proximité avec lui. Deux passages, Ésaïe 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Ça c'est les hommes qui disent ça. Dieu d'Israël sauveur. Arriver à dire ça, un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dû à la postérité de Jacob. Cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. » Et plus loin, chapitre 48, verset 16. « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'y étais là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. » Moi, cette invitation de Dieu me touche. Et je sais qu'elle a touché plusieurs. Ce matin, Philippe nous a rappelé ça. Raymond a prié de cette proximité que nous pouvons avoir avec Dieu. Approchez et écoutez simplement. Ça veut dire venez vivre dans ma proximité. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ce matin. Néanmoins, juste souligner cette perception erronée des hommes. Tous ceux qui disent que Dieu se cache sont ceux qui ont pris un chemin opposé à celui où l'on rencontre Dieu. Ce chemin, c'est celui des fabricateurs d'idoles. C'est-à-dire ceux qui pensent que l'on peut comprendre Dieu par nos propres efforts. Ce chemin, en fait, est une impasse où Dieu ne se manifeste pas et donc l'interprétation qu'on a faite, ben, c'est qu'il se cache. Non, c'est par l'Éternel que nous obtenons le salut et il ne se cache pas. Il est là pour notre délivrance. L'homme, à cause de sa nature, est incapable de vraiment comprendre Dieu. Et c'est pourquoi, après la loi et les prophètes, Dieu s'est révélé par le Fils. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de nombreuses manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très, très hauts. Il y a aussi un verset, en Colossiens 1, verset 15, qui dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Par Jésus, Dieu s'est fait homme. Il est venu pour se révéler lui-même à nous. Alors que nous étions étrangers aux promesses de Dieu, nous étions incapables de comprendre Dieu, il a fallu qu'il s'approche de nous pour nous rendre capables de le recevoir, capables de le percevoir. C'est tout ce message de l'Évangile qui nous invite à recevoir Christ dans nos vies. Et pour conclure, c'est un résumé vraiment de cette révélation. On connaît bien, c'est Jean 1. Au commencement était la parole était auprès de Dieu. Mais je voudrais lire à partir du verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire une fois de plus. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, après la création, après le texte, la loi, les prophètes, la parole a été faite chair. Et à partir de là, nous pouvons être capables de comprendre Dieu grâce à cette proximité désormais possible. Mais justement, à notre tour, approchons-nous de Dieu car il s'est approché de nous. L'homme n'a plus d'excuses, puisque finalement Dieu s'est manifesté et que ouvertement il ne se cache pas et qu'il ne s'est jamais caché.
Les quelques mots de conclusion qu'on pourrait dire seraient en fait une invitation à continuer, peut-être parce que certains de ce qu'on a pu dire ce matin, c'est des choses que vous connaissiez et que vous connaissez parfaitement. Mais le but dans tout ça, dans un sens, c'est que lorsque nous parlons de Dieu, c'est de suivre cette invitation que nous donne l'Écriture de le connaître. De connaître Dieu. Et connaître, ça commence naturellement avec savoir quels sont les faits, quels sont les attributs de Dieu, quels sont ce que dit l'Écriture, comment Dieu a parlé et tout ça. Mais le but, c'est de prendre déjà tout ce que nous pouvons savoir en lisant les Écritures et qui se trouve peut-être dans notre tête, mais de peu à peu, avec l'aide du Saint-Esprit et dans la prière, de laisser tout cela descendre dans notre cœur pour que ce que nous connaissons de Dieu devienne en fait une connaissance de Dieu après et de connaître sa personne et d'être dans sa relation. C'est l'objectif que nous avons en fait dans notre Église, c'est que par toutes les prédications, mais aussi peut-être en particulier par ces séries, c'est que nous redécouvrions le Dieu que nous prions tous les dimanches, le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous aimons, afin que nous puissions toujours connaître mieux quelles sont ses perfections, mais aussi avoir cette pleine confiance que ce que nous pouvons lire dans sa parole, ce que son Saint-Esprit peut nous dire en nous, c'est fiable parce que c'est lui qui nous le dit. Je vous invite donc à laisser ces paroles, peut-être si vous les connaissez, mais simplement les garder à votre esprit, puis les laisser simplement descendre dans votre cœur, afin de savoir à quel point ça vous rapproche encore plus de Dieu, parce que ça vous montre encore à quel point il est beau, il est parfait, il mérite notre louange, mais il est fiable aussi. Je vous invite à quelques instants de prière, après je donnerai la parole à Jean-Paul pour les annonces. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore émerveillés lorsque nous lisons à nouveau et que nous pensons à nouveau à qui tu es, comment tu t'es révélé à nous. Mais Seigneur, simplement en faisant une pause et en y pensant à nouveau, nous voulons te dire un grand merci. Te dire à quel point nous sommes émerveillés de par ta grandeur, ta perfection. Ton amour inépuisable, Seigneur. Ta générosité qui se manifeste envers nous chaque jour dans ta bonté et ta bienveillance. Mais Seigneur, nous voulons aussi te dire un grand merci parce que tout petit et insignifiant que nous sommes dans cet univers, de multiples manières, Seigneur, tu t'es révélé à nous, dans ta création, dans ta loi, mais de façon sublime, Seigneur, encore dans ton Fils Jésus qui est venu auprès de nous et qui a manifesté cette perfection. Et cet amour. Alors Seigneur, aujourd'hui nous ne voulons pas rester les mêmes. Nous ne voulons pas mépriser, Seigneur, cette grandeur que tu as, cette bonté. Ni même, Seigneur, nous comporter comme si tu n'avais pas parlé et faire la sourde oreille. Mais ouvre notre cœur, Seigneur, afin que tu sois toujours plus grand et plus puissant en nous. Mais aussi, Seigneur, que cela nous attire à toi, Seigneur, parce que c'est ton souci, c'est ton désir. Seigneur, nous te prions que nous puissions poser à nouveau nos fondements et que nous puissions avec confiance aller de l'avant, Seigneur, quoi que notre vie nous réserve, quoi que ce monde, Seigneur, nous pose comme défi. Nous voulons croire, Seigneur, que tu nous as tout donné et qu'en toi se trouve ce dont nous avons besoin pour avancer. Gloire à ton nom, gloire à ton amour, Seigneur, et merci pour ta révélation. Au nom de Jésus, Amen.